À Canalem, on aime l'été.
Kevin Breton au micro le vendredi 16 août, ce qui signifie qu'il ne reste que 16 dodo avant l'anniversaire de ma chère co-animatrice Emmanuelle Robitaille.
16 dodo?
Ben, c'est le 31 ton anniversaire?
Non, c'est le 18.
Oh mon Dieu, quelle introduction ratée. Il ne reste que 2 dodo.
Je dis, voyons, 16 jours jusqu'à 30. Qu'est-ce que l'événement, je ne suis pas au courant de. Je vais sortir ma structure de phrase anglophone.
Deux dodo.
Non, c'est parce qu'on parlait, tout le monde rit de moi, parce que je pense que je suis la personne qui a dit que c'était ma fête le plus souvent ici en studio. Peut-être aussi sur l'île de Montréal et dans la région.
Dans le Grand 514, on pourrait dire.
Dans le Grand 514, peut-être au Canada aussi, on ne sait pas.
Ouais.
Mais, et on disait, moi et Mathieu Tessier qui est en régie aujourd'hui, que je pense que ça fait 19 fois depuis le 31 juillet que je le nomme, c'est-à-dire avec une moyenne de 1,4 fois par jour.
Mais tu le mérites.
Mais moi aussi,
Emmanuel,
j'aurais dit de s'arrêter de 31. C'est étrange, hein?
Ah, c'est ça.
Il me niaise.
Peut-être qu'on t'organise.
Sa fête à Mathieu, c'est 2 jours plus tard. Ah. Je ne sais pas c'est quand votre fête à vous. J'espère que vous vous sentez festif, en tout cas.
Peut-être c'est parce qu'on t'organise un surprise pour le 31. Peut-être que c'est pour ça qu'on s'est fourré de date.
Je serais un enfant.
Tu serais flabbergasté.
Je serais en larmes de joie.
Aujourd'hui, à l'émission, Emmanuel, ta chronique, ce sera sur des mots grossiers.
Oui.
Des mots grossiers, mais qui ont une racine épistémologique, disons, plus fine et raffinée qu'on pourrait le croire.
En fait, ça nous permet d'être vulgaire en restant sophistiqué.
Voilà.
On va voir également, on ne passera pas à côté de l'opportunité de vérifier si on connaît bien notre français, parce qu'il y a certains mots, voire la majorité, voire la totalité des mots que je vais présenter lors de cette chronique, qui, ma foi, dans leur signification, échappaient à ma connaissance. On va également parler de baseball, qui est un sport que j'affectionne, sûrement le seul sport que j'affectionne tout court. Mais Kevin, toi, t'es sportif dans l'âme.
Je suis allé en voir en fait semaine à Ottawa du baseball d'ailleurs.
Je suis un petit peu jalouse.
Mais je
n'ai pas beaucoup de jalousie dans la vie, mais là, je te dirais que ça l'éveille en moi, l'envie.
Toujours question de rendre jaloux et de mettre l'eau à la bouche. Il va également question de la 10e édition déjà du Festivière de Lévis. On va en parler avec le copromoteur de l'événement, Alexandre Caron, un petit peu plus tard.
Comme on s'est fait gâter cet été par les grandes chaleurs et qu'on sait qu'il y a toujours un petit moment de rafraîchissement et après, on retrouve ces chaleurs-là pendant 2 semaines. Toi, Kevin, cette semaine, tu vas nous parler d'une façon de survivre en fauteuil roulant aux canicules.
Oui, et c'était pas de tout repos, mais j'ai réussi. Je vais vous donner mes petits trucs aujourd'hui.
Ça t'a pas trop donné chaud.
On va aussi vous parler d'un spectacle de l'humoriste Patrick Groulx interprété en langue des signes québécoise.
Absolument. Et René Dallaire, fondateur de l'Association québécoise de voile adaptée, vient nous parler d'un défi qui s'en vient très, très, très bientôt. Un petit peu après ma fête, qui est le 18 août. Ça va être le 24 août.
Ah, c'est le 18 août.
C'est le 18 août.
OK.
Voilà. Bienvenue à l'été, tout le monde.
Voici la ronde des jurons qui chantaient clair, qui danseront. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant à langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles sang bleu. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnies cotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et poignantres, fichtres et foutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnies dieux et les passes, que Dieu. Quelle pitié, les charretiers ont un langage châtillé. Les harangères et les mégères ne parlent plus à la légère. Le vieux catéchisme poissard n'a guère plus cours chez les hussards. Ils ont vécu des profondis, les joyeux jurons de jadis. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles sang bleu. tous les Christies, les ventres saint gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardie, que les sapristies et les sacristies. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlates, les crénoms de nom, les pestes et pois, diantres, fichtres et foutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnidieux et les passes que Dieu.
Ronde des jurons.
Très bien choisi.
Ben,
très
j'aime bien choisi. Je trouvais ça cocasse de Georges Brassens, qui est un des amours inconditionnels de Mathieu Tessier, notre régisseur aujourd'hui en studio.
Ils sont bien connus même, en fait. Là.
Comment?
Ils se sont bien connus. C'était vraiment, là, les deux faisaient
Mathieu
la paire.
Mathieu et Georges?
Dans ces belles époques, oui.
Ben,
oui,
tout
oui.
à fait, je sais.
Mmh. Les deux coquins. Les deux coquins qu'on les appelait. C'est ainsi qu'on les appelait.
Ah oui,
Georges et
ben
Mathieu,
drôle,
les deux coquins. Ben oui, mais Mathieu, il rougit en régie. Il aime pas ça qu'on en parle, mais il y a eu vraiment des épopées avec Georges et Mathieu. Là. Vous irez voir sur YouTube. Tapez Georges et Mathieu sur YouTube. Vous allez voir quelques vidéos. Des petits coups pas piqués des verres. Bref. Bref. Parlons grossier.
Oui, effectivement. En fait, c'est le Figaro. Excusez. C'est le Figaro qui proposait très récemment un article des 10 mots français grossiers qui nous aident à briller par leur prestance, mais qui demeurent dans leurs fondements les plus basic, en bon français, vulgaire. Mots puisés directement dans l'ouvrage de Jean-Michel Jacobowicz. Disais que je m'excuse parce que toi, c'est Jacob que Jean-Michel que tu connais bien.
Oui, je le connais bien. Elle écoute les aventures. Comment est-ce que j'embarque pas
là-dedans? Non, c'est ça. Mais tu lui diras que je suis désolée de ma part. Je ne sais pas comment dire son nom de famille. Le grand livre gros mots, c'est un ouvrage qui existe littéralement et qui nous rappelle tous ces jolis mots articulés qui servent à des fins, ma foi, de jurons parfois, d'injures d'autres fois. Et comme je disais en début d'émission, ça va être aussi une petite pratique de notre ou de rafraîchissement de nos connaissances en langue française, connaissances que j'ai qualifiées de très faibles voire nulles quand j'ai créé cette chronique parce que littéralement il y a pas beaucoup de choses dont je connaissais la définition.
Ben, on en a appris, c'est ça l'important.
Mais
c'est pas juste
oui.
les auditeurs qui apprennent des choses, c'est aussi
oh non non
les
on artisans. Est ça, nous ne sommes qu'un ici.
C'est une école perpétuelle la radio.
Voilà. Je l'avais dit que c'était l'école perpétuelle de la vie.
Voilà.
La semaine passée on parlait des rêves, tu fais rêver que tu étais tout le temps à l'école.
J'ai rêvé à ce moment-là, là, j'ai comme déjà vue incroyable. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule.
Oh, ça doit être ton intérieur qui te parle. Alors, un flibustier. Mais je vous lance, avant de vous donner ça tout cru dans le bec, Mathieu et Kevin en studio, on peut-tu essayer de deviner ce que ça veut dire? Et là, Mathieu, tu me sembles être quelqu'un qui fait du tir de pigeon d'argile, ou je ne sais trop. Mais je vous rappelle, je vais juste vous remettre en contexte, hein, ce sont des vulgarités. Donc, il n'y a pas de sport ou d'armes à feu d'impliquer, Mathieu, okay. en studio.
Fait que tu veux savoir la définition de flibustier?
Ben, idéalement, mais tu sais, rapidement, si vous avez une petite idée. Ben, ouais, lancez-vous, là. Un militaire.
Eh oui.
Moi, ça me semblait être un nom d'un navire quelconque.
Hey, mais j'aime ça, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'au final, c'est une injure qui sert à désigner un escroc ou un voleur, mot qui a des racines néerlandaises signifiant un pirate aventurier qui fait du butin librement. Donc, on peut se parler que
Pas pire, je suis proche.
Oui, c'est ça, dans son historique, la personne avait un bateau. Bon, Voltaire l'utilise correctement alors que les grands-parents en France peuvent s'y référer pour parler de leur petit-fils qui vient de faire une bêtise. Oh, quel flibustier! Hein?
Oh.
Alors, voilà, deuxième mot, un freluquet.
Freluquet, on dirait genre le nom d'un petit jouet pour bébé, genre un genre de hochet. Mais comme...
Mais toi, tu vas vraiment sa phonétique.
Oui.
Tu sais, ça rime, ça doit vouloir
ça,
dire la même
c'est
chose.
Ça.
Toi, Mathieu, est-ce que t'as une idée?
Un être chétif.
Genre quelqu'un de très mince.
OK, mais là, t'es incroyable. OK.
C'est
marque-toi
ça?
Un point sur une feuille parce que... En fait, c'est une injure qui provient du mot freluque, un terme français du 17e siècle, qui désigne simplement une mèche de cheveux. Jusque-là, rien de grave. Mais son utilisation s'est transformée avec le temps. Et on est arrivé à l'époque où c'est utilisé pour parler de quelqu'un de malingre. Et malingre, c'est quelqu'un qui est d'une constitution faible ou fragile, de là ce que Mathieu vient d'évoquer, ou encore quelqu'un de frivole. Soit peu sérieux, voire inutile ou sans importance. Donc, si je te traite de freluquet, pour moi, tu es largement loin d'être indispensable. Et c'est étrange parce que moi, le mot frivole... Avant cette chronique, je l'utilisais pour parler de quelqu'un qui butine, voire quelqu'un de libertin. C'est quelqu'un de frivole, là. C'est quelqu'un qui va aller voir ailleurs, quelqu'un de libertin, mais je l'ai échappé quelque part dans ma vingtaine parce que c'est pas ça pantoute.
C'est pas ça. Moi, je pensais que c'était ça.
Je suis peut-être pas folle. OK.
Non,
peut-être
non, qu'on l'a juste utilisé. Peut-être que par extension, ça s'est transformé dans notre langue, là.
Ça serait à vérifier. Alambic, maintenant.
Alambic. Je pense que c'est comme le nom qu'on donne d'une qualité d'une salade qui est bien fraîche. C'est une salade qui est bien fraîche là, avec un petit goût de meringue puis une bonne huile d'olive. Là, je dirais que c'est une salade alambic.
Il hey, faut que toi, tu viennes chez nous tous les soirs pour me...
Je pense que tu parles à balsamique.
Fudge qu'il dit. Alors, non, alambic, les garçons, on l'utilise pour parler de quelqu'un d'alcoolique... d'ivrogne ou juste désagréable quand il boit. Tu sais, on a tout le temps quelqu'un dans un party qui va au-delà de sa capacité à être agréable, de se tenir debout. Eh bien, c'est lui, l'alambic. Et enfin, un alambic, c'est un appareil composé essentiellement d'une chaudière en forme de cornue surmontée d'un tuyau terminé par un serpentin placé dans une cuve d'eau froide qui sert à distiller. Donc, ça sert à faire de l'alcool, à créer de l'alcool. L'homme ici boirait autant qu'un alambic produit l'alcool.
Donc, fait qu'on on prend les caractéristiques d'un objet, d'un outil, puis on les transpose sur un humain.
Ben, effectivement. Donc,
c'est beau, la langue.
Quel alambic, dans un party, ça permet de sortir le mauvais sans que personne s'en rende compte? Un galapia.
Galapia. C'est pas le nom des grosses tortues, ça? Tu sais, les grosses tortues galapia.
C'est pas des tortues galapagos?
Oui, mais leur enfant, c'est les galapia.
OK. Ouais. Hey, toi, là, faudrait te faire jouer à Malarkey, qui est un jeu extrêmement intéressant, qui permet d'inventer des affaires de même dans des mots qu'on ne sait pas.
C'est un jeu de société.
Ce serait excellent. Mm-hmm. T'as une bonne répartie, t'es rapide. Mais non, c'est pas ça. On traite quelqu'un de galapia, une personne qui est vulgaire ou grossière. Serait-ce un pléonasme ici? Parce que, si on traite quelqu'un de galapia, on est nous-mêmes un peu vulgaires.
Okay, ouais.
Quelqu'un nous bouscule dans la rue et ose dire que c'est nous qui l'avons percuté, par exemple. On peut le traiter de galapia avec aucun reproche qui suivra. T'sais, ça, c'est comme, il s'en rendra pas compte. Un lovelace, ou lacet d'amour en français.
Ouais.
C'est un peu facile, celui-là, je te le donne tout de suite. Alors que c'était les frivoles pour moi jusqu'à la conception de cette chronique, les lovelace sont ceux qui sont amoureux de l'amour et qui ne voient de fin à cette quête de conquête. Je veux dire, c'est dans l'infini. Un don juan, un coureur de jupons, un libertin ou un lovelace, on choisit ce qui nous rendra subtilement justice.
Okay.
Un microcéphale, c'est assez facile également. Dans la décomposition de la sémantique du mot, exactement, Mathieu, tu l'as dit, ça nous guide vers le petit cerveau, quelqu'un de bête, quelqu'un de stupide ou de pas intelligent.
Mm-hmm.
Un mijauré, M-I-J-A-U-R-E-E.
Mijauré. Je sais pas.
Mathieu, je sais jamais, tu parles-tu dans le micro?
Micro, mais sans l'allumer.
Bah, c'est ça.
Je suis timide. Je suis timide, la lumière rouge.
J'ai dit quelque chose pour parler de quelqu'un de timide là-dedans, non? Alors, un mijauré, ça provient des verbes mijoler ou câliner. On parle ici d'une personne prétentieuse qui fait sans cesse des manières. Ici, on dirait une pense-bonne. Mais maintenant, il y a des synonymes plus gracieux. Rouscailleur, maintenant.
Rouscailleur.
C'est quelqu'un qui passe son temps à réclamer sans cesse, quelqu'un qui est chialeux, qui est râleur en bon québécois, chialeux, qui tout y est dû, puis que c'est jamais assez, qui est jamais satisfait. Ça pourrait provenir des verbes rousser, qui veut dire gronder, et de cailler, qui veut dire bavarder, finalement. Toujours parler en étant fru. On en a tous un en tête. Le jamais content. L'arpagon, maintenant. Retrouvé dans le grand monde du théâtre, entre autres utilisé par Molière, il fait référence à l'avare. Hein? Et si on va dans l'étymologie, dis-je, du mot harpagon, il provient du latin harpago, qui veut dire harpon, lui-même issu du grec, qui signifie qu'il y a clairement rapacité ou avidité. Donc, un pixou, un séraphin dans nos racines culturelles, ici, c'est peut-être trop clair. Un oncle harpagon, hein? C'est beaucoup plus mystérieux et ça a des apparences huppées. Et finalement, je vous laisse avec palsambleu ou palsambleu. Tu sais quoi, Matt?
Palsambleu, oui.
Ouais.
C'est quoi?
C'est quoi?
Ça se retrouve dans beaucoup de chansons de Brassens, d'ailleurs.
Pour vrai?
Mais oui, c'est
ben
comme
en fait,
ça.
Tantôt, j'ai entendu la définition. Il l'a dit, hein?
Il dit, oui.
Je l'ai entendu.
J'ai pas...
On dépasse l'insulte dans Palsambleu. C'est littéralement un juron. Puis ça sonne un peu comme les mille milliards de mille sabords du Captain Haddock,
je trouve. C'est un hyperbole.
Et c'est vraiment diantre ou morbleu. Ce sont vraiment genre des cousins mots
okay.
de cette expression vulgaire qui, elle, s'est formée sur la phrase « par le sang de Dieu », pas le sang bleu, « par le sang de Dieu » qui peut être traduit par « nom de Dieu ». C'est un mélange okay. de mots d'église et d'expressions pirates, mais plus sophistiqués. C'est ce que je retiens. Et c'était la chronique des jurons sophistiqués.
Pas le sang bleu.
I met a lad, handsome and witty, who whispered to me, you are so pretty. Soon he and I were cabareting. We had a good time, goes without saying. He came to my house, all the lights were low, and then he held me close, set my heart aglow. He told me that my lips were as sweet as wine. With that he put his two lips close to mine and talked of baseball, baseball, the Dodgers and baseball, baseball, Stan Musial and baseball, baseball, all through the night, baseball, baseball. I was so mad, I got to thinking, surely this lad will start me drinking, for there was me, eager and healthy, in love with a he. Handsome and wealthy, I tried to get him in my sweet embrace. All he had on his mind was the pen and trace. And though I saw him practically every night, we never went to movies or saw a fight. We just saw baseball, baseball, DiMaggio and baseball, baseball, Chicago Cubs, baseball, baseball, DeRocher and baseball, baseball. My heart knew such humiliation that I sat and planned retaliation. Using the wiles known to all women, I'd marry that man if it was human. The wedding bells rang, we were one in June. Triumphantly we went on our honeymoon. He held me very tight under stars so bright and whispered, darling, who do you love tonight? I told him, baseball, baseball, the Tigers and baseball, baseball, Ted Williams and baseball, baseball. I love the game, baseball, Yankees, Red Legs, Braves, White Sox, Indians, Phillies, Senators, Red Sox, Orioles, Athletics, Pirates, baseball, baseball, baseball.
Baseball, baseball de Jane Morgan, dans laquelle il a été question des Red Sox, des Dodgers, des Cubs, mais nos Cubs, nos Dodgers au Québec ici, ce sont les Aigles de Trois-Rivières. Et moi, j'ai eu la chance d'aller les voir jouer en fin de semaine derrière, les Aigles de Trois-Rivières, pour la première fois de ma vie. J'étais à Ottawa et les Aigles ont battu les champions d'Ottawa. C'est peut-être prémonitoire à cette entrevue qu'on va mener aujourd'hui avec Robert Brousseau, directeur des opérations de Baseball Québec, qui célèbre cette année leurs 50 ans. Bonjour Robert.
Bonjour, comment ça va?
Ça va super bien, je suis bien content de vous parler aujourd'hui. Il y a un événement important qui va avoir lieu dimanche prochain au Stade des Aigles de Trois-Rivières pour célébrer les 50 ans de votre organisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Exactement. Bon, c'est un match qui va opposer deux équipes de la Ligue CANAM, évidemment les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières. Le match a lieu dimanche à 14h. Et ça va également être précédé là, d'une méga clinique où on a invité 200 jeunes d'un peu partout au Québec. Cette clinique-là va être essentiellement donnée par des joueurs des Aigles CANAM, mais également des joueurs des Aigles Junior Elite, en fait de l'organisation des Aigles de Trois-Rivières. Donc, ces 200 jeunes-là vont avoir l'occasion de fouler le terrain et apprendre plein de techniques là, de baseball là, par des passionnés là, de baseball également, donc ça va être très intéressant. Ça va être une journée formidable ce dimanche.
Et les joueurs vont participer également aux activités post- et pré-match?
Exactement. Oui. Comme je dis, là, avant le match, bon, il y aura cette clinique-là. Après le match, là, je ne suis pas vraiment au courant là, du scénario de ce qui va se passer après la partie des Aigles contre les Capitales. Mais oui, effectivement, ça va être très le fun là, pour les gens présents là, de voir ces deux équipes-là. Puis en plus, là, qu'on annonce que le stade risque d'être rempli là,
c'est vrai?
À pleine capacité. Oui, exactement, ouais. Exactement. Il y a des gens qui me parlaient, qui voulaient avoir des billets, qui disaient, écoute, c'est difficile parce qu'ils annoncent complet. Bref, arrivé tôt, il va manquer de place, comme on dit.
C'est un gros stade à Trois-Rivières. J'y suis jamais allé. Comme je le disais en introduction, j'ai vu du baseball ailleurs à Québec, à Ottawa. J'ai jamais vu celui de Trois-Rivières.
Ben, c'est un stade qui ressemble beaucoup à celui de Québec parce que les deux ont été construits exactement à la même époque, à l'époque de Duplessis. C'est lui qui avait fait construire ces deux stades-là.
Ah ouais.
Ces deux stades qui sont très, 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 très similaires là, en termes de grandeur. Peut-être que, puis là je m'avance, mais peut-être que le Stade de Québec, ils ont peut-être éloigné la clôture, mais je vous donne ça, là, toute réserve, là, je ne suis pas vraiment certain, mais la construction, les années de construction, là, c'est deux stades qui sont presque copiés-collés.
Et la Ligue Can-Am, c'est une ligue qui se porte assez bien au Canada, mais ailleurs aussi aux États-Unis, c'est davantage dans le Nord-Est. Pour ceux qui la connaissent pas bien, est-ce que c'est du haut calibre, la Ligue Can-Am?
Bien, évidemment, c'est du calibre qui est plus élevé que le junior élite ou même le baseball qu'on a ici au Québec. Je vous dirais, ben pour ceux qui suivent ces ligues-là, certains vont comparer ça à du 2A, mais pas... c'est plus fort que le A, mais un petit peu plus faible que le 2A. Donc, tu sais, bon, quand on tombe dans le baseball majeur, évidemment, il y a les clubs professionnels, mais en tour d'eux autres, là, il y a du 3A, du 2A et du A. Donc, ça vous donne une petite idée là où ce que les joueurs peuvent se situer. Il y a certains de ces joueurs-là qui vont faire une transition dans la CANAM pour peut-être éventuellement là, retourner dans le baseball majeur. Là. Puis ça s'est déjà vu. Il y a des joueurs qui ont passé par la CANAM puis qui ont terminé dans le baseball majeur. Donc, c'est un passage qui peut t'amener à aller jouer dans le baseball majeur.
Oui, il n'y avait pas le fils de Wayne Gretzky à un moment donné qui jouait à Trois-Rivières aussi, quelque chose de même?
Je ne sais pas si c'est à Trois-Rivières ou à Québec, mais oui, effectivement. Ouais. Il me semble que c'est à Québec. Puis son père, d'ailleurs, avait assisté à un des matchs. Là, fait qu'il y avait beaucoup d'engouement cette journée-là où son fils a pris part à ce match-là.
Maintenant, Baseball Québec célèbre 50 ans. Ça a été fondé en 1969, soit quelques mois après la création des Expos de Montréal. Parlez-nous, depuis 50 ans, le baseball au Québec. Moi, j'ai comme eu l'impression qu'il y a eu un petit essoufflement après le départ des Expos, mais qu'il y a un renouveau qui se fait ressentir dans les stades des différentes municipalités depuis une année ou deux. Est-ce que vous ressentez la même chose sur le terrain, Robert?
Bien, tout à fait. Écoutez, c'est drôle parce que autant le baseball va bien, autant le baseball majeur à Montréal allait bien également. Mm-hmm. Tu sais, au milieu des années 90, on se souvient tous de l'année en 1994, la grève, les expos, ils étaient dans le top du classement. Bien, ça correspond exactement à notre plus grand membership qu'on a eu de joueurs de baseball au Québec. C'est clair que c'était aussi une autre époque où on jouait au baseball l'été, puis on jouait au hockey l'hiver, puis il y avait beaucoup moins d'autres sports à laquelle les enfants pouvaient choisir là, de faire pendant l'été.
L'offre était plus petite.
Mais c'est ça, l'offre assez diversifiée. Mais en 1994-95, c'est là où on a retrouvé le plus de joueurs de baseball au Québec depuis l'histoire. Ça correspond tout à fait avec les grosses années des expos où il s'en allait vers peut-être aller aux séries mondiales. Mm-hmm. C'est clair que le baseball majeur puis la performance de l'équipe professionnelle elle a eu un impact direct là, avec le membership. Puis bon, toutes les années qui ont suivi après ça, de 95, puis toutes les années qui ont suivi jusqu'au départ des expos, ben nous aussi, là, notre membership a baissé, puis on a passé de 55 000 joueurs, puis on s'est ramassé quelques années plus tard, là, où on avait plus que 17 000 joueurs qui jouaient au baseball. Depuis une dizaine d'années, on a mis plein d'efforts, on a mis des nouveaux programmes en place, où on a mis le joueur au centre de nos décisions, ce qui a fait en sorte là, qu'on a re-augmenté ce membership-là, puis là, on se retrouve à l'entour de 33 000, 34 000 joueurs là, maintenant au Québec.
Et peut-être qu'on va réatteindre ce plateau de 50 000. S'il y a un retour des Expos de Montréal, c'est sûr que ça donnerait un grand coup de main. Merci beaucoup, Robert, d'être venu nous parler. On rappelle, dimanche prochain, donc ce match de célébration des 50 ans de Baseball Québec. Il reste peut-être des billets. On vous invite à vous rendre sur votre site Internet pour obtenir des détails. Merci beaucoup, Robert.
Bien, merci à vous.
J'allais jouer au baseball, mamie était pas du bon bord. C'est à cause que je jouais droitière, pis on n'était pas assez riche pour que j'aie une gauchère. Au bat, je frappais pas bien fort, mon coach m'envoyait dans le champ. J'étais tout le temps dans le mur, je connaissais pas trop les règlements. J'ai fait peur quand j'ai pitché le ballon dans le fond. Puis à toi et Saint-Valentin. fait tout mon ménage, je l'ai sacré dans mon char. J'suis déménagée à Montréal pour aller jouer dans Ouattatata. Aujourd'hui je fais de la musique, puis je trouve que le temps passe trop vite. La fin de semaine je joue d'un bord. Ça c'est pas de moi, c'est une phrase à placard. Même si je joue plus au baseball, je traîne ma mythe dans mon char. J'attendrai pas.
Parce que tu vas nous parler de canicule un petit peu plus tard et surtout comment survivre, savais-tu, Kevin, que planter un arbre en ville remplace 5 climatiseurs selon des ingénieurs? Hein? Les grandes chaleurs touchent tout le monde actuellement, nos voisins américains, nos cousins français, on entend « j'ai chaud » partout sur la planète. Non, pas sur la planète, mais quand même, il y a des endroits où vraiment là, il y a une hausse des degrés qui est indéniable. Et le thermomètre actuellement ne baisse même pas la nuit parce que le béton et les bitumes urbains emmagasinent la chaleur en journée et la restituent la nuit. Phénomène connu sous le nom d'îlot de chaleur urbain. C'est ce qu'on peut lire dans le detour.canal.fr où on ajoute qu'un arbre, un arbre planté en ville équivaut à 5 climatiseur selon des ingénieurs, car nécessairement, un arbre diminue le soleil direct sur le béton et peut faire diminuer ses 12 degrés supplémentaires calculés en moyenne dans nos villes. 12 degrés de hausse, ça paraît. Donc, morale de cette histoire...
Valérie Plante, plante des arbres.
Voilà.
Vous écoutez Aime l'été.
Aime l'été avec Emmanuel Robitaille. Kevin Breton, en ce vendredi 16 août, il est temps que la semaine finisse, je ne trouve ma
dissipé.
Foi dissipée. C'est dissipé. Tellement le mot qu'on devait choisir. Dans quelques instants, on va parler de la 10e édition du Festibiaire au Quai de l'Espace du 400e à Québec avec beaucoup de nouveautés, des nouveaux concours. Ça va être un événement à ne pas manquer ce week-end et on va voir à la fin de ce prochain bloc, donc vers 12h45, que Canicule et Kevin continuent de faire deux.
ça ne fait pas qu'un.
J'espère qu'ils vendent de la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a des panneurs ouverts 24 heures, oui, j'espère qu'ils vendent de la bière au ciel. Il faisait beau, il faisait chaud, il faisait ce que tu voulais, il faisait dur, mais tu l'aimais. En toute franchise, je pouvais pas t'en promettre plus, j'espérais qu'une aventure fasse affaire. Quand je t'ai parlé une première fois, je te disais tout ce qui me semblait être efficace. Tous les clichés ont passé chacun leur tour. Soudain, je me suis retrouvé seul avec ma bière. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel, je me disais. J'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a des panneurs ouverts 24 heures. Oui, j'espère qu'ils vendent la bière au ciel. J'étais comme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même soft, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais tout aussi invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. Quand je t'ai dit que tu me tentais, je t'ai dit que je te désirais. Soudain, je me suis retrouvé seul avec ma bière. J'espère qu'ils vendent de la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût. Tu me fais de l'œil, mais moi je fais dur, j'aurais jamais dû caler
qui vendent la bière au ciel.
La voix que vous venez d'entendre, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, Kevin, ça te disait-tu quelque chose?
Ça me disait très quelque chose.
Ça te disait très quelque chose, mais du moins, la chanson est une chanson, un grand succès de Jim Corcoran, ça c'est clair, et c'est le groupe Lendemain de veille qui reprenait de la bière au ciel, originalement de Jim Corcoran. Lendemain de veille, dont le chanteur a fait l'émission On connaît la chanson, juste en même temps que moi, donc je l'ai croisé sur le plateau, et ce groupe était d'ailleurs celui qui assurait la soirée dansante au mariage de Julie Snyder, Pierre-Carl Pelado. Un groupe qui roule sa bosse depuis 10 ans. Si vous aimez, si vous découvrez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter leur site internet lendemaindeveille.ca.
Et lendemaindeveille.ca. Mais c'est pour
lendemain de veille. Bien, c'est de préciser, oui, il n'y a pas d'apostrophe dans la. Dans voilà.
C'est ça. Pas la phonétique.
Non,
donc,
c'est ça. Non. On ne met pas d'apostrophe, ni de symbole, ni d'accent aigu
non,
dans les.
Sinon, vous allez avoir une page 404 erreurs.
404 not found. S'il n'y a pas de bière au ciel, ben, on se console parce qu'on peut se rendre directement à Québec, au Quai d'Espace du 400e, pour profiter tout le week-end de la 10e édition du Festibière. Et on a Alexandre Caron, co-promoteur, promoteur de l'événement. Allô, Alexandre?
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi-même?
Très, très bien.
Et ça commence très, très bientôt?
Ben, en fait, ça a commencé hier.
Ah, c'est ça, c'était hier.
Les portes sont ouvertes. Oui, c'était jeudi que ça a commencé. On a eu un excellent jeudi. Je pense que c'est le 10e anniversaire. Il y a beaucoup de monde, là. C'est la 10e édition cette année. Puis, on dirait que le monde s'en passait le mot hier. Ça a été probablement le meilleur jeudi depuis longtemps. Puis, on s'attendait très, très gros week-end.
Ah, ben, c'est ce que j'allais dire parce que déjà, on peut dire qu'il y avait une foule record qui s'est présentée au 3e festibiaire de Lévis plus tôt cet été. Est-ce que tu as de la pression, de la compétition? Tu veux dépasser, égaler? C'est pas grave?
Ben, en fait, c'est pas vraiment grave. Lévis, c'est un nouvel événement. Donc, c'est sûr qu'on voit des augmentations annuelles assez importantes. Mais Québec, c'est un événement, ça fait 10 ans que ça existe. On a reçoit à peu près 125 000 personnes par année. C'est quand même le plus gros festival de bière au Québec en termes d'achalandage. C'est à peu près ce qu'on a tout le temps. Oui, on espère avoir une bonne température. C'est ça qui fait la différence. Mais d'après moi, là, on va avoir beaucoup de monde. Il y a une très belle température, en tout cas, pour les festivaliers. En fin de semaine, c'est qu'on s'attend à avoir beaucoup de monde, au moins égaler les records, puis on aimerait bien ça avoir le plus gros soul qu'on a jamais eu au festival.
Maintenant, tous les villages à peu près, ou après toutes les grandes villes, ont son festival de bière au Québec. L'offre s'est vraiment multipliée ces dernières années. Est-ce que c'est difficile de tirer son épingle du jeu?
Bien, on est arrivé dans un timing il y a 10 ans où les festivals étaient beaucoup moins populaires. Peut-être que les brasseries, il y en avait beaucoup moins. Je me rappelle, il y avait environ 80 permis de brasserie. Aujourd'hui, on est rendu à 250 brasseries.
Wow! Ah,
total. C'est sûr que chacun des festivals des villes ont leur festival. Puis je pense que c'est quelque chose qui est qui grandit, tout comme les microbrasseries. Mais quand on vient à Québec, c'est 100 microbrasseries différentes. On peut coûter entre 5 et 600 produits ici. Donc, même si on vient ici 4 jours, c'est impossible de finir par toutes les goûter. C'est ce qui différencie le festival de Québec. Il y a énormément de brasseurs. Donc, il y a énormément de produits. On peut tout trouver. On a des brasseurs sont ici présents. Il y a beaucoup de développement des affaires qui se font. Donc, il y a du bon. Le monde sont là. C'est pas des agents promo ou des gens qui viennent représenter la bière. C'est vraiment les brasseurs directement ou les gens qui pour l'industrie. Donc, c'est vraiment une belle place pour venir découvrir la bière. Puis, c'est ça qui nous différencie, nous autres, qui fait que le succès de Festivaire de Québec revient année après année.
Justement, tu parles de dégustation. On parle de cidre, d'hydromel, de cocktail, de spiritueux. Comment on déguste, à savoir, est-ce qu'il y a des dégustations avec un prix établi et ensuite on achète le produit?
Bien, en fait, le modèle d'affaires au niveau des festivals, les gens rentrent ici. L'accès au site est gratuit à la base. Par contre, si les gens veulent déguster la bière, ils doivent acheter le verre officiel au coût de 15 $. C'est un verre qui change toutes les années. Cette année, évidemment, on a fait un verre spécial pour le 10e anniversaire. Donc, les gens se présentent ici, achètent le verre au coût de 15 $, ou tu fais l'acheter en pré-vente, là, c'est terminé, et achètent des jetons. Les jetons vont être échangés contre des consommations de 4 onces dans les différents kiosques. Donc, on va compter entre 2 jetons et 4 jetons pour avoir une consommation de 4 onces que les gens peuvent aller de kiosque en kiosque pour y aller. C'est la même chose au niveau des autres produits alternatifs, que ce soit des cocktails à la bière, que ce soit des hydromel ou des Thierry Salarat d'ailleurs qui est ici, entre autres, pour écouter leur gin. C'est tout fonctionne avec ces jetons-là. Dans le fond, les gens peuvent les échanger contre des portions, en fait, un 4 onces de bière, une dégustation, on se promène de kiosque en kiosque. Puis ces jetons-là sont disponibles aussi. C'est le même jeton qui sert pour le Festival de Lévis, à Sherbrooke, à la Croix du Festival, dans les autres propriétés qu'on a. Donc, les gens, s'il leur reste de l'argent parce qu'on des jetons, ben, peuvent les ramener l'année suivante ou tout ça. Donc,
ou se promener de festival en festival, c'est génial.
Exactement. Puis si les gens disent, ah, ben, nous autres, on va venir en couple, on a des enfants, il n'y a pas de prix d'entrée pour les enfants, pour quelqu'un qui ne boirait pas de bière ou qui dirait, on va s'acheter un verre à deux pour déguster le plus de bière possible. Il n'y a pas de prix d'entrée, c'est gratuit. On peut même venir passer la journée ici parce qu'il y a énormément d'activités sur le site. On a des zones de jeu avec des Jenga géants, des jeux de poche, un gros Twister géant qu'on peut mettre environ 50 personnes dessus dans différents jeux, si on veut, différents jeux, puis amener des gens finissent par se rencontrer sur la plateforme de jeu. Donc, c'est un gros Twister géant. On a ça, on a un Silent Disco sur place, donc un disco avec des écouteurs que les gens ont sur leur oreille et puis qui dansent au son de la musique. Juste en face, il y a les Dwelling Pianos, donc des gens qui jouent du piano ensemble, sous la forme de demandes spéciales, donc les gens vont porter leurs demandes spéciales. Puis les pianos jouent les chansons, c'est tout animé. Il y a la scène principale qui a des groupes de musique tout le long de la journée, les conférences avec Philippe Wouter, donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur le site. On n'est pas obligé de payer pour ça, mais si on veut consommer la bière, ben c'est là qu'on, dans le fond, on devient utilisateur payeur du festival rendu.
Et il y a une nouveauté cette année, Alexandre, c'est le Challenge Brassicole. En quoi ça consiste?
Tout à fait. Ben, en fait, ça fait longtemps qu'on veut mettre en place une activité un petit peu plus physique. Ce qu'on a décidé de faire, c'est un challenge qui permet de faire trois étapes. Ce qu'on voulait, c'est favoriser. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas compétitif nécessairement. C'est beaucoup plus participatif. Et qu'on dit au monde, formez-vous une équipe de trois. Ça nous prend une personne qui est rapide, qui sait courir, donc 4,5 km de course à faire le plus rapidement possible. Il y a des jeux d'habileté, en fait. Ça nous prend quelqu'un qui est fort, qui est habile de ses mains. Donc, c'est des jeux d'habileté qui vont se faire dans des modules gonflables avec des, évidemment, qui vont mettre à l'avant la bière. Et il y a ça nous prend quelqu'un qui connaît la bière, quelqu'un d'intelligent, qui connaît la bière, qui est ferré. Il y a 30...
Des connaissances générales sur la bière, finalement.
Exactement. Même un petit peu poussé parce qu'on veut amener un petit peu de challenge. Puis, dans le fond, on se forme une équipe de trois, on se déguise, on se trouve un nom d'équipe, on vient avoir du fun, comme si c'est participatif, c'est pas nécessairement compétitif, parce que quelqu'un peut être très bon au niveau des questions, mais avoir fait un petit peu plus lentement sa course, et on va savoir un petit peu moins de points. Puis, à la fin, c'est un tirage, puis on donne le grand prix, on envoie les trois personnes au Great American Beer Festival à Denver, qui est le plus gros festival qu'il y a eu en octobre de bière en Amérique du Nord. C'est probablement le plus gros festival. Il y a au-dessus de 700-800 brasseurs qui sont là de partout aux États-Unis. C'est énorme.
C'est vraiment un gros prix. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que la date est à déterminer ultérieurement selon les disponibilités de tous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Et moi, j'ai comme déjà créé une équipe dans ma tête. Je ne sais pas. Parce que, tu sais, moi, je ne courrais pas. Je ne connais pas grand-chose à la bière. Mais tu sais, peut-être que je pourrais manipuler des choses. Ou peut-être que je ferais juste cheerleader. Mais c'est selon. Donc, on a le concours Brassicole. Il y a les 100, plus d'une centaine de micro-brasseries. Il y a des food trucks aussi, si on veut manger un petit peu entre les prises d'alcool pour se donner un petit fond, c'est bien important. Également, tu as nommé toutes les activités qui vont avoir lieu. Plus qu'un gros party, vous avez pensé aux familles, tu l'as dit. Nommé aussi qu'il y a une section qui est prévue pour l'allaitement, ce qu'on ne s'attendrait pas d'un festibière, mais oui, les mamans qui allaitent, vous pouvez vous présenter avec bébé. Vous avez un endroit qui a été pensé pour vous, l'entrée est gratuite. Vous avez également la station H2O, un espace de ravitaillement pour les bouteilles d'eau, ce qui s'assure qu'il n'y a aucune bouteille jetable qui va être vendue sur le site. Si j'ai bien compris, c'est une initiative écologique importante, là.
Ben, on a un gros, on essaie d'être très éco-responsable par rapport à tout ça. Et ça, c'est un des modules. Donc, tous les verres qui sont donnés aux gens, en fait, on n'a aucun verre en plastique utilisé ici. Mm-hmm. Les verres sont faits en vitre. Les gens achètent leurs verres, donc ils peuvent aller à la station d'eau, rincer leurs verres ou encore remplir leurs verres d'eau pour prendre un petit verre d'eau entre deux consommations. Donc, il y a ça qui est là. Puis, on essaie vraiment de tout le recyclage, toutes les mesures éco-responsables, on essaie de les mettre en place. C'est pas évident dans le genre de festival, mais juste avec les verres qui n'ont aucun verre de plastique, par exemple. Donc, il n'y a personne qui jette des verres. Les poubelles sont... On essaie de garder les poubelles le plus vite possible à toutes les années. Donc, on travaille beaucoup ce côté-là. Je pense que c'est rendu important.
Ben, en 2019, effectivement, effectivement. En tant qu'organisateur de gros festivals, de grands rassemblements, je pense que c'est important. Et non seulement ça, vous avez également vous remplissez les conditions pour l'accessibilité universelle. Donc, un festival, et le concours est peut-être moins adapté, mais le festival est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de limite. Et c'est l'entrée gratuite des guichets également sont sur place. C'est un système de jetons qui se permet de se promener de festival en festival, de région en région. C'est de 11h à 23h de jeudi à samedi et jusqu'à 19h pour la dernière journée, soit dimanche. Et on invite tout le monde à consulter le infofestibière.com pour avoir tous les détails. Merci Alexandre.
Merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
Bon succès.
Bonne bière.
Merci.
derniers jours. Il a fait chaud, il a fait lourd, mais c'est bizarre. Depuis hier, c'est le cagnard, c'est le calvaire. Je suis à plat sur le carrelage et malgré ça, je suis en ton ventilateur dans le salon, c'est une erreur. L'air qu'il diffuse est si plombé que si j'abuse, je vais tomber. Pour m'aérer jusqu'à la moelle, toute la journée
une chanson qui s'intitule « Canicule » pour mettre à la table pour toi, Kevin. « Canicule » chantée par Jeanne Chéral.
Se termine enfin, Emmanuel, la période de l'année qui me fait le plus questionner ma décision d'habiter en ville. Le creux de l'été, les 30 degrés Celsius full humidex qui suffoquent les Montréalais et Montréalais, cette température accablante qui les emprisonne dans des îlots de chaleur ou dans des bouchons de circulation sous un soleil plombant. J'aime bien vivre en ville, mais chaque fois que je me sors le bout du nez citadin, à l'extérieur de Ville-Marie, je reviens à Montréal, non pas avec les couplets d'Ariane Moffat en tête, mais avec la même rengaine. Qu'est-ce que je crisse en milieu urbain, moi? Pourquoi je m'afflige de vivre dans un microscope d'asphalte brûlante, de béton réfléchissant et de frênes dévastées par l'argile? Pourquoi pas la campagne? Ah oui, bien sûr, les terrasses, il y a ça. M'engourdir l'esprit en même temps que je me déshydrate le corps. 18 piastres bien dépensées. Le canal Lachine avec ses cyclistes aspirant maillot jaune. Et le Mont-Royal où aller prendre une bonne bouffée d'air frais composé à 50% de smog et à 50% de THC. Mais voilà, malgré tout cela, j'ai réussi. J'ai encore une fois réussi cet été à survivre à la canicule et ce, en contournant deux obstacles majeurs. Le premier, sans air climatisé. T'en parlais tout à l'heure, Emmanuel. Parce qu'à un moment donné, quand tu actives ton air climatisé qui contribue aux îlots de chaleur, ben, tu réalises que tu fais juste pousser la neige dans la cour du voisin jusqu'à ce que ben il y ait justement plus de neige à faire fondre. Et aussi, l'autre obstacle que j'ai contourné, c'est que j'ai fait tous ces péripéties en fauteuil roulant. C'est pas rien parce que le meilleur ami pour combattre la chaleur, c'est certainement la piscine. Mais encore faut-il que ces installations soient accessibles. À Montréal, il y a heureusement quelques piscines municipales dotées d'équipements. Il y a la piscine Lévesque, située dans le plateau Mont-Royal, et la piscine de l'Association communautaire et sportive du Centre-Sud, pour ne nommer que ces deux-là. Et quand je dis pour ne nommer que ces deux-là, c'est que c'est les deux seuls que j'ai trouvés. Sinon, ben, vous pouvez toujours faire comme moi, et vous trouvez une blonde dont les parents se sont grillés d'un ovale pataugeable. Voilà. Mais c'est pas l'idéal, parce qu'une piscine hors terre, c'est généralement très creux. Et pour moi, qui est un canard à la patte cassée qui nage comme un chien espagnol, là, je mélange peut-être un peu les expressions, c'est pas idéal. Je peux pas toucher au fond, j'ai de la misère à grimper, je crains constamment pour ma vie en tentant de m'agripper à la première nouille qui passe par là. J'ai donc décidé de me rendre dans un hôtel à Ottawa après notre visite aquatique plus ou moins convaincante chez les beaux-parents. C'est que les piscines luxueuses offrent souvent un espace moins haut, moins creux pour les enfants que je n'aurais aucune gêne à tasser du revers de la main pour m'approprier tout leur espace. Simple comme bonjour, je serai rafraîchi. Non, pas si simple que ça. J'ai réservé une chambre accessible, oui, mais j'ai pas pensé que la piscine intérieure ne le serait pas. C'est assez logique, les ingénieurs se creusent pas la tête quand viennent installer une piscine. En fait, ils creusent pas pantoute. C'est plus logique de surélever légèrement le niveau de l'étage par le biais de cette damnée invention que sont les escaliers que de creuser. Une pratique assez coutumière chez les ingénieurs d'Ottawa, semble-t-il, car le même concept m'attendait au deuxième hôtel que j'ai visité, même si j'avais pris soin de vérifier au téléphone avec la réceptionniste avant de procéder à la réservation. C'est ainsi que ma dignité en a pris un coup. Je gravirai marche par marche sur mes genoux écorchés les escaliers pour aller faire ma petite saucette dans le chlore d'Ottawa. Simple comme bonjour, hi, je fus rafraîchi. Ce fut éprouvant, mais j'ai survécu à l'été.
When I wake up in the morning, love, the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, it bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day, lovely day, seems impossible to face, yeah. Someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, gonna be a lovely day.
Love the day, 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 love
lovely day, it's a lovely day. C'est un jour adorable quand même, en ce vendredi 16 août, à tes côtés, Kevin Breton, et avec vous aussi à la maison, bureau, travail, en vacances. Lovely day qui a été reprise par Maroon 5, une chanson qui était à l'origine de Bill Withers, qu'on entendait également sur cette chanson. C'est un peu à la mode actuellement aussi avec Kygo qui a repris Higher Love avec Whitney Houston, dont je pense qu'on en a parlé il y a quelques semaines, mais comme j'ai une mémoire bizarre, je vais juste pas dire ça parce que peut-être que personne ne se rappelle sur moi. Mais quand même, on a cette capacité aujourd'hui avec les technologies actuelles de mettre ensemble des gens vivants et décédés, de créer des hits et de les reprendre. Et c'est ce que Adam Levine a fait, chanteur de Maroon 5. Et pour revenir sur ta chronique rapidement, Kevin, sans s'étendre davantage, j'ai énormément apprécié, comme d'habitude. Je dirais que je suis un bon public, mais tu m'as fait beaucoup rire et je ne sais pas encore quelle image je préfère entre toi qui cours après une nouille dans une piscine hors terre ou toi qui bottes un enfant.
Au péril de ma vie.
Ouais, ou toi qui bottes un enfant, mais je pense que le botter de l'enfant dans le pas creux, là,
ça... ma place.
Ça, vraiment...
Allez ailleurs, allez dans le jacuzzi, les enfants. Là. C'est pas creux là-bas aussi. Là. Laissez-moi me baigner. T'aimes-tu ça de baigner, toi?
Moi, mon Dieu.
T'es une patrogeuse,
ouais. Moi, j'adore.
Moi aussi. Vraiment. Moi aussi. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Bref.
Moi, je suis une sirène, là. Hé, tu sais pas. Non, mais je me crois, là. Je deviens un personnage. Tu me perds.
Bref, tout ça pour dire que si vous réservez dans un hôtel, prenez soin de bien vérifier avant si c'est accessible.
N'apportez pas vos enfants, tout simplement. Gardez vos enfants dans la chambre parce qu'ils risquent d'être en danger à côté de Kevin.
Oui, surtout. Mais... ça, c'est une des activités que j'ai faites en fait semaine dernière, mais j'en ai fait un autre pas mal cool, une activité de Go Start Toyota pour du karting adapté.
Mais c'est ça, tu m'as dit que ça existait et moi, je suis fan de conduite également. J'adore conduire. Je suis un peu one of the boys, on va se le dire, et j'aime beaucoup... je trouve que ça fait cool dire
moi
ça
tout.
Aussi. Mais... mais au-delà de ça, effectivement, le karting, mais j'ai jamais vu, je pensais pas que je pourrais peut-être y aller un jour.
Il y en a un à Magog, sur la rue Orford, si ça vous intéresse, karting Orford. Ils ont deux kartings adaptés avec des contrôles à la main si vous êtes en fauteuil roulant. Et sinon, Toyota, son initiative Kart Start, qui fait le tour du Canada cet été, il était à Montréal.
Donc, c'est une station qui est mobile.
Oui, c'est ça. Ils prennent leur truck, puis se promènent, puis arrêtent dans les autodromes. Ils ont quitté Montréal hier, et demain, ils arrêtent à Québec. Non, après-demain, le 18 août, ils arrêtent à Québec jusqu'au 20 août.
C'est bonne journée.
Environ 79$ pour un avant-midi de karting. On vous offre également les rudiments pour en apprendre un peu plus sur la conduite automobile. L'idée, c'est de faire de l'éducation des futurs automobilistes de demain à travers le karting. Ça va jusqu'à 80 km/h quand même. Il n'y a pas de course.
OK, ben là,
mais
on
a quand même du fun. Ça va vite. Puis j'ai bien aimé ça. Fait que c'est kartstart.ca si jamais vous voulez en apprendre plus. Québec, puis après ça, ils arrêtent à Nouvelle-Écosse.
Ben, mon Dieu, ta porte. On va y aller.
Ben, Québec, c'est pas loin.
Restez des nôtres parce qu'il nous reste 30 minutes ensemble avant de terminer cette semaine officiellement d'M l'été qui est... Non, c'est-tu notre dernière? Non, il en reste deux après.
Mais oui,
OK, ben quand même, mais ça va être un au revoir après. Moi, j'ai des difficultés avec les fins. Hein. Pourquoi tu sais ça?
Ben, tu nous l'avais dit dans un épisode.
Mon Dieu, que je
t'écoute.
T'écoute quand je parle.
Mais oui, il nous reste deux épisodes.
Écoute, deux épisodes, mais il nous reste quand même encore deux blocs à faire ensemble aujourd'hui. Et on recevra Martin Asselin en studio qui nous parlera des spectacles Interface et Patrick Groux, qui sera présenté le 28 septembre dans un contexte fort intéressant. Et René Dallaire, fondateur de l'Association québécoise de voiles adaptées, nous parlera également d'un défi particulièrement intéressant.
just fine. We'll work it out. Yeah, we'll survive. We mustn't let a few bad times dictate. So come along, it won't be long till we return. Papa, you shut your eyes.
C'était la chanson « Soon Will Be Found » de Sia. Une chanson qui est particulière dans sa façon dont elle a été présentée en vidéoclip. Dans ce vidéoclip-là, Sia a pris la peine de chanter sa chanson en se peignant les mains en blanc et en faisant le langage des signes.
Oh, je te corrige. En langue.
En langue. Qu'est-ce que j'ai dit?
Langage.
Oh, excusez. Et ben, c'est parce que je suis en langue des signes, parce que c'est important de le nommer, parce qu'on ne connaissait pas beaucoup cette chanson-là. C'est une vieille chanson de Sia. Sia, maintenant qu'on connaît toutes. Mais Mira Castillo, elle a ramené cette chanson-là sur le plateau de La Voix à TVA en 2013 en se peignant les mains en vert. Et comme elle est travailleuse sociale, pour elle, elle avait une affection particulière et un besoin de créer ce pont-là. Et la langue des signes, c'est un outil qui est impératif pour l'accès à la culture et à l'art pour les personnes malentendantes qui vivent avec une surdité. Et ça, Joël Fortin et Martin Asselin l'ont bien compris depuis 2008. Maintenant, au Québec, on peut aller voir des spectacles absolument accessibles et magnifiquement interprétés en LSQ. Martin Asselin est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Martin.
Bonjour.
Merci de m'avoir repris, parce que c'est important d'avoir un bon langage pour parler de la langue.
Exactement. Parce c'est une erreur vraiment commune.
Commune,
donc, profiter.
En anglais, on dit American Sign Language.
Effectivement, une partie de la problématique qui vient peut-être de cette traduction-là, effectivement.
Effectivement, mais il n'en demeure pas moins que dans tous les cas, ce que vous offrez, c'est particulier, c'est unique et c'est extrêmement important de l'avoir au Québec. Ça fait déjà une décennie et plus que vous êtes dans ce projet-là. Tout d'abord, Interface, ce n'est pas un nom qui a été choisi au hasard.
Non, effectivement. C'est la moitié du mot interprète et face, qui est, on veut que les sourds regardent des spectacles en face. Donc, et le mot interface, qui est bon...
On va vous interpréter ça d'en face.
Exactement. Puis, c'est ça.
Ben, c'est ça, parce que Interface, spectacle Interface, vous vous assurez que les pièces de théâtre, que les spectacles que vous achetez, que vous produisez, que vous soient disponibles en langue des signes. Et j'ai été voir ce que vous faites sur YouTube. Entre autres, on a Philippe Laprise qui a été vous voir déjà. Et le rendement est absolument fantastique. Martin, tu es sur scène avec l'humoriste et tu suis au tempo.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on interprète le spectacle, mais on le joue. Et on l'adapte également. Il y a certaines petites parties que l'on doit adapter là, pour le rendre culturellement accessible. Mais effectivement, la partie jouée est vraiment super importante parce que pour certaines expressions, certains tons, nous, ça va passer dans le visage. Donc, à partir du moment où tu le rends de cette façon-là, tu joues un peu plus. Et bon, comme c'est sur scène, on fait des jeux. Puis là, effectivement, il y a un volet qu'on développe de plus en plus qui devient de plus en plus intéressant, c'est de jouer avec l'artiste. Donc, par exemple, je me rappelle d'une fois où, avec Louis Morissette, où bon, il parle de ses testicules et tout ça qui, avec l'âge, finissent par descendre. Puis là, je sais à quel point, à quel niveau il va descendre son point qui représente sa testicule. Moi, je lui ai dit, regarde, je te regarderai pas. Puis la mienne, là, je vais la faire un petit peu plus basse. Tu viendras juste me la remonter pour qu'on soit égal. Puis visuellement, ça va être vraiment super drôle. Donc, autant pour les personnes sourdes et les personnes entendantes dans la salle. Puis effectivement, le fou rire est arrivé.
C'était commun, j'imagine, autant chez les spectateurs sourds que
les exactement.
C'est vraiment.
Quand les artistes
idée.
Embarquent, là, on leur explique un petit peu, puis je leur fais des petites propositions, mais quand ils embarquent, là, c'est vraiment fou. Là. En fait, c'est le même spectacle, mais avec ces petits ajouts-là, puis c'est ça, c'est vraiment merveilleux.
Et c'est extrêmement important ce que tu dis, parce qu'on pourrait penser que c'est moins drôle, que c'est plus lent, que c'est au contraire, c'est vraiment la même chose. Et comme tu dis, le non-verbal demeure extrêmement important.
Tout à fait. Puis surtout, bon, on ne se le cacherait pas, les petites passes sexuelles dans les spectacles, mais souvent, l'action de ce qui est raconté, ben nous, on se doit de le faire en geste. Donc ça
c'est
crée
très
une petite
explicite,
gêne,
là.
C'est ça, effectivement. Puis là, les artistes nous regardent faire, puis là, ils se mettent à rire parce que c'est eux qui ont écrit les textes, mais en même temps, ils nous regardent faire une gestuelle qui les rend un peu mal à l'aise, puis là, ils se mettent à rire, puis là, ils disent hey, « Sérieusement, c'est moi qui ai écrit ça, ce texte-là », puis là, ça fait rire tout le monde. Donc, c'est ça, effectivement, on dit que c'est le même spectacle avec un plus et non un moins.
Et non un moins, c'est très bien dit, et le tempo, je le dis, ça reste rapide, mais il y a quand même un questionnement qui m'est venu, c'est-à-dire, est-ce que les artistes te posent la question d'emblée à dire « Est-ce que je dois changer quelque chose? » Il doit y avoir, parce que pas tout le monde qui connaît cette réalité-là. Là.
En fait, ils ne la posent pas beaucoup. Et le moins possible, on essaie d'interférer dans leur habitude de pitch, de rendu, là, de leur monologue. Mm-hmm. Mais il y a des artistes qui sont plus rapides que d'autres. Et là, si je sais que je vais décrocher dû au fait que c'est trop rapide, vraiment, là, des fois, on s'entend sur quelques petits gestes, sur le fait que si je te touche à l'épaule, c'est parce que vraiment, tu vas trop vite. Et donc, ralentit un peu. Mais pour la plupart, du fait qu'on connaît le spectacle presque par cœur, parce qu'on l'a travaillé pendant presque un an là, avant de le rendre, même si dans ma tête, je suis en train de perdre des éléments, mais du fait que je m'en rappelle, je vais aller rechercher ces éléments-là là, de façon là, mnémonique. Là,
on va encore plus loin en amenant des gens qui sont malentendants ou atteints de surdité sur scène, parfois pour avoir des petits rôles dans certaines pièces de théâtre qui sont présentées.
Effectivement. Dans le fond, puis même des fois, il y a des spectacles où les humoristes font venir quelqu'un sur scène pour lui poser des questions, mais c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est une personne sourde qui va arriver sur scène et qui sera traduite, donc interprétée par Joël ou un autre interprète que j'aurais engagé et qui va pouvoir, dans le fond, dire à voix ce que la personne est en train de dire sur scène. Donc, l'humoriste peut interagir avec elle et ça rend vraiment la chose là, vraiment géniale. Puis, ce qu'on me dit souvent de la part des humoristes, c'est quand tout le monde applaudit, donc eux, ils applaudissent pas de cette façon-là, mais avec les mains,
en bougeant les mains,
tout à fait.
Oui.
Ça crée des vagues, là. Quand les salles sont pleines, ça crée des vagues et ça leur rentre dedans, sérieusement. Puis, en tout cas, il n'y a pas personne qui vous a dit « Ah, c'était correct », non, tout le monde sort de là, puis « My God, c'était vraiment une super expérience », puis... Puis ça se parle dans le milieu, c'est ce qui est vraiment génial.
Mais c'est ce que j'allais te poser comme question, parce qu'on va parler de qui s'en vient assez bientôt. C'est ce qui nous attend dans cette programmation 2019-2020. Mais rendu là, après 10 ans, là, est-ce qu'il y a certains artistes, comme ça se parle, et que c'est une expérience unique tant pour le spectateur que pour la personne qui est sur scène, est-ce qu'il y en a certains qui disent « Écoute, Martin, moi, je veux présenter mon spectacle chez vous. »
C'est déjà arrivé une fois.
Oui? Est-ce qu'on veut des noms?
C'était... ça va me revenir. Okay, celui qui fait Bob Cashflow.
L'éveillé.
François L'éveillé, exactement. Sauf que c'était de la chanson et de l'imitation.
Okay,
deux choses que je peux
difficile.
Prendre.
Ben
donc,
oui,
c'est ça.
Ben oui.
Mais effectivement, là, ce qui commence à être intéressant, c'est que ça se parle à l'intérieur des maisons de production. Donc, quand on approche un artiste, c'est pas toi qui as fait Philippe Laprise. Oui, tout à fait. C'est pas toi qui as fait les Morissettes. Oui, tout à fait. Fait que c'est beaucoup plus facile de convaincre les humoristes et les maisons de production.
C'est
aussi,
sécurisant, puis c'est tellement
du moment,
bien fait.
À partir du moment où tu en fais un, mais tous les autres de la même maison de production ben, sont ouverts habituellement parce que ben, c'est ça, ça s'est parlé à l'intérieur là, de cette maison de production-là.
Et là, en septembre, donc très prochainement, il y a quelqu'un qui vient vous voir, c'est Patrick
Gros. En fait, c'est ça. On présente le spectacle de Patrick Gros.
C'est un peu un scoop présentement. Presque.
Ouais, ben oui, puis non, parce que dans notre milieu, dans le fond, les gens le savent. Donc, les billets sont en vente et tout ça depuis un certain temps. Mais effectivement, le spectacle de Patrick Gros, puis parce qu'on a présenté il y a peu de temps Pierre Hébert. Donc là, c'est le prochain. Puis on en présente à peu près deux par année parce que j'ai un travail à temps plein, j'ai une famille et tout ça. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail.
C'est ce que tu viens de dire. C'est un an parce qu'il faut le dire, vous êtes formé en comédie. Joël aussi a joué beaucoup.
Ben, on n'est pas formé. En fait, on l'a appris sur le tas.
Depuis plusieurs années, suffisamment pour faire des apparitions télévisuelles et pour pouvoir rendre et travailler correctement un spectacle.
Exactement ça. Puis, c'est ça. Puis on adore ça vraiment. Là. Effectivement, quand les artistes disent faire de la scène, c'est une drogue. Effectivement, là, quand tu sors d'une salle, d'une scène, là, tu dis « Oh mon Dieu, c'est déjà terminé. » Tout ce travail pour un spectacle. Ça, c'est un peu le volet qui fait mal. J'aimerais ça faire à un moment donné, un vendredi soir, un samedi soir consécutif. Puis... mais c'est ça, c'est tout dépendant du nombre
aussi,
exactement,
en plein
ça. Puis l'assistance aussi qui est assez limitée. Mais là, ce qui est fun vraiment, là, c'est de plus en plus, à la fois, on a ouvert un volet pour les personnes non-voyantes parce qu'on fait affaire avec un autre organisme connecté. Et de plus en plus d'entendants viennent voir les spectacles parce que les couples de personnes sourdes se rendent compte que, mon Dieu, c'est accessible. Puis si leurs parents entendants venaient, ça serait une belle sortie. Puis on a beaucoup de témoignages de la part de parents qui viennent pour une première puis ils viennent nous voir les yeux pleins d'eau. Là. C'est la première fois de leur vie qu'ils vont voir un spectacle avec leurs enfants entendants. Et ils en parlent à d'autres amis entendants. Puis là, on se rend compte que là, il y a le couple de personnes sourdes, mais d'un côté, il y a les parents de monsieur, de l'autre côté, les parents de madame. Puis... donc, c'est ça.
Donc, non seulement vous êtes un pont entre l'art et la culture et les personnes malentendantes, mais vous êtes aussi un pont qui relie ces gens-là et les gens qu'ils aiment, leurs proches, qui parfois peuvent avoir des activités séparées dues à ces limites-là. Mais là, vous les enlevez, les barrières, et c'est vraiment, vraiment super bien fait. Je rappelle que Patrick Gros, c'est le 28 septembre chez vous. Il reste des billets?
Exactement, tout à fait. Puis les gens qui seraient intéressés nous contactent par Spectacle Interface à commercial vidotron.ca ou vous pouvez aller sur notre Facebook Spectacle Interface Producteur.
Oui, et le www.spectacleinterface.com pour aller voir votre belle histoire, tout ce que vous faites, tout ce qui est à venir. Merci beaucoup, Martin, de t'être déplacé. Bon succès pour le mois de septembre qui s'en vient.
Super, merci. Bye.
On termine l'émission en partant, en voilier, n'est-ce pas,
avec
Emmanuel?
Styx, avec rien Styx, de moins.
Pour nous porter jusqu'à la voix de René Dallaire, fondateur de l'Association québécoise de voile adaptée, qui est avec nous au bout du fil aujourd'hui. Bonjour, M. Dallaire.
Oui, bonjour.
Nos auditeurs, si nos auditeurs nous écoutent depuis longtemps, ils ont certainement déjà entendu parler de l'Association québécoise de voile adaptée parce qu'on aime beaucoup vous recevoir à l'émission. Monsieur Dallaire, mais pour les néophytes, ceux qui connaissent un petit peu moins votre association, qui a commencé en 95, parlez-nous de la mission de votre association.
Oui, effectivement. Écoutez, nous, on est d'abord destiné à une clientèle de sciences physiques et également, on a de plus en plus de personnes aveugles qui viennent pratiquer la voile chez nous. En fait, l'objectif chez nous, c'est de permettre à ces gens-là d'apprécier le plus possible, peu importe le niveau de handicap, la sévérité ou autre, d'apprécier là, la voile pour s'en servir, dans le fond, pour s'améliorer au niveau de leur estime de soi. Il y a beaucoup, beaucoup de gains à les prendre avec une activité qui est tellement... un symbole de liberté extraordinaire.
Ouais, c'est une liberté qui est à portée de main parce que le voilier, c'est pas une activité qui est extrêmement difficile à adapter. C'est pratiquement à la portée de tous.
Oui, ben écoutez, grâce à nos voiliers, en fait.
Oui, c'est ça.
Notre équipement et notre personnel, je pense que...
Mais moi, je vais le nommer. Ce que je viens d'entendre, M. Dallaire, là, c'est extrêmement sécurisant de vous entendre parler d'handicap, vous, parce qu'on a l'impression, en entendant vos propos, la façon dont vous vous exprimez sur le sujet, qu'il n'y a pas de limite. Souvent, quand on a une limitation fonctionnelle, on se dit, oui, c'est adapté, mais jusqu'à où? Et des fois, on a peur de déranger. Je ne sais pas, Kevin, si tu partages mon opinion, mais je vais parler pour ma part. Puis, tu as l'impression que la personne n'est pas peut-être tout à fait prête, alors que quand on vous entend, on se sent accueilli d'emblée, peu importe notre situation. C'est comme si ça enlevait là, un gros poids sur nos épaules.
Ben, écoutez, c'est bien certain. Écoutez, pour moi, c'était très important parce que d'emblée, moi-même, je suis une personne lourdement handicapée, on peut appeler. J'ai pas l'usage de mes bras, j'ai pas l'usage de mes jambes.
Donc, vous savez exactement à quoi vous avez affaire. Là. Et ça paraît. Ça,
écoutez, j'ai été conquis, moi, en 1994 à Vancouver. Et c'est comme ça que toute l'histoire a commencé. C'est pas la première fois que je l'en parle. Et c'est loin d'être la dernière. Écoutez, c'était pour moi une révélation de pouvoir enfin pratiquer un sport après 25 ans de quadriplégie. Et j'ai pas lâché depuis. Puis je suis tellement content. Aujourd'hui, la quantité de personnes qui ont pu en profiter au Québec, et ça continue. Ça continue. C'est formidable.
Et question de continuer dans la même voie, il y a un défi qui va avoir lieu le 24 août prochain, qui est en fait une levée de fonds au bénéfice de l'association, qui va être divisée en deux événements.
Oui, effectivement. Il y a une activité de régate. En fait, les deux sont... Il y a une régate et il y a aussi les bateaux croisières qui sont invités, les gros yachts, là.
Ouais.
Qui sont invités à participer à leur façon. Mais le principe, c'est que chaque partenaire, chacun enregistre son voilier et demande aux gens de contribuer au financement de la régate, là, au financement de l'AQVA, via une participation commanditant leur voilier ou en facilitant là, une sortie en yacht de croisière. Fait que ça devient de plus en plus populaire et on est bien contents parce que pour nous, le financement, c'est le nerf de la guerre. Écoutez, on permet des sorties à 15$ de la sortie pour 1h30.
Fait que, 15$ pour 1h30 de voilier?
Ouais. Puis ça, c'est grâce à nous, à toutes les personnes, à tous les organismes.
Et vous avez deux lieux de desserte, donc à Pointe-Claire et à Sherbrooke.
Exact.
Puis est-ce qu'on doit réserver beaucoup à l'avance? Est-ce qu'il y a une saison qui est plus achalandée qu'une autre? Est-ce qu'on doit prévoir un certain intervalle?
Je pense que on va résumer une chose. La saison est courte.
Okay? Ouais.
Et puis, on n'a pas vraiment de liste d'attente parce qu'on a réussi à fonctionner d'une certaine façon que les gens ne peuvent pas réserver plus que 2 semaines à l'avance. De sorte qu'il y a toujours de la place pour des nouvelles personnes. Ça se renouvelle constamment sur notre feuille de réservation. Là. Et puis, les gens, quand ils viennent la première fois, ils sont accueillis, on prend une description de leur... on prend note là, des différentes
limitations
et incapacités, comment on peut adapter le voilier à leurs conditions, et puis comment eux peuvent être organisés aussi.
Et on arrive là avec un sentiment de sécurité assuré, et on sait que la situation va être adaptée à tous nos besoins, c'est génial.
Oui, en général, les gens sont très satisfaits. C'est rare qu'on a vraiment de... Et quand on a des gens qui ont des remarques à nous faire ou quoi que ce soit, on fait un bon effort pour s'ajuster rapidement.
Pour en apprendre plus et s'inscrire à ce défi qui aura lieu le 24 août prochain, on a juste à visiter votre site internet, René Dallaire, qui est le aqva.org. Vous avez également une page Facebook. Merci énormément d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, puis on vous souhaite un bon reste d'été.
Bel événement également.
Oui, puis on a aussi un tirage, qui est une autre de nos sources de financement. Ça fait que si les gens sont intéressés, c'est 10$ le billet. Et puis, 1000$ pour le premier prix. Une fin de semaine à J-Peak pour 4 personnes dans un chalet. Et puis, 2 nuitées, soit une à... dont une dans Fermont, dans toute la province, et un autre à l'hôtel de l'aéroport.
Merci. Merci beaucoup, M. Dallaire.
Au plaisir, bonne fin de semaine.
À bientôt.
Bonjour.
c'est une chanson de Ed Sheeran, Chris Stapleton et Bruno Mars qui nous chantait Blow, qui est mon crush musical actuel que j'écoute sur repeat, mais comme pendant plusieurs heures en ligne. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Et c'est déjà la fin de cette édition du 16 août d'Emlété. Kevin Breton, merci beaucoup.
Merci, cher
Flibustière alambiqué. Merci, Mathieu Tessier. Bonnes vacances. Tu pars en vacances. Merci à Claire. Merci à Louis. Merci tout le monde. À lundi. Thank you.